En tout cas, concernant ces nouveaux penseurs de l'islam, ils sont déjà minoritaires. Ils sont très audacieux. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de mérite et de courage. À part la Tunisie, ils ne sont jamais suivis par les, jamais soutenus plutôt par les pouvoirs en place. Je vous ai parlé d'Abu Zayd en Égypte, ce qui lui est arrivé. Même au Liban, il n'y a pas le renouvellement de la pensée religieuse dans l'islam. Vous vous rendez compte? Pourtant, ce pays est un pays particulièrement ouvert. Mais voilà. Alors, donc, ils sont minoritaires, en général pas acceptés. Et leur influence, donc, est très réduite. Ils ont un petit cercle de disciples, mais ils sont loin de toucher le peuple musulman dans son ensemble. Et comme je l'ai dit, n'étant pas soutenus par une autorité légale, eh bien, voilà, leur influence est donc très limitée. Alors, par contre, en France, il y a des intellectuels musulmans aussi, toujours pareil, qui s'affirment musulmans, sauf un dont je vais vous parler, qui, eux aussi, peuvent promouvoir des nouvelles lectures du Coran. Mais il y en a deux qui veulent promouvoir, eux, l'exégèse. Il y en a un qui l'a déjà fait. Il s'appelle... Son nom me... Je pensais parler de lui, pourtant je le connais. Bon, excusez-moi, ça me reviendra. C'est un Tunisien devenu français. Il a... Ah, ça y est. Manzer Sfar. M-O-U-N-D-H-E-R. Ça, c'est son prénom. M-O-U-N-D-H-E-R. Sfar. S-F-A-R. Il a publié un livre dont le titre est « Choc ». Le Coran est-il authentique? Il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré Manzer Sfar à Paris. Il m'a raconté les déboires qu'il a eus après avoir publié son livre. Il a une balafre à la joue. Il a été attaqué en plein Paris par des musulmans, oui, pour avoir osé s'en prendre à l'authenticité du Coran. Alors, lui se dit musulman. L'autre intellectuel, qui est d'ailleurs bien connu en France, il s'appelle Abdelwahab Medeb, M-E-D-E-B. Il est bien connu parce qu'il a une émission sur France Culture, tous les dimanches soirs, Culture d'Islam. Et Medeb, alors lui, va très très loin. Il dit que plus rien ne doit être tabou. Il veut absolument que les autorités du monde musulman acceptent l'exégèse. Donc, plus rien ne doit être tabou, y compris le statut divin du Coran. Tout doit être mis à plat. Mais le problème pour Medeb, c'est que lui, il est musulman, certes, mais agnostique, et que c'est connu. Son incroyance est connue. Donc il n'a aucune influence sur les musulmans, sauf quelques-uns, bien entendu. Mais voilà, c'est une limite très importante. Vous voyez, il a écrit plusieurs livres, et l'un d'entre eux a un titre très suggestif, « La maladie de l'islam ». La maladie de l'islam, pour lui, il y a, dans le monde musulman, un blocage de la pensée religieuse, qui touche tous les aspects de la vie sociale, de la tout, vous comprendrez mieux après, tout ça ne doit plus être considéré comme intangible, rien ne doit être tabou, et c'est le statut du Coran qui bloque le renouvellement et la modernisation de la pensée religieuse dans l'islam. Il est très courageux, hein, c'est vrai, mais voilà, le fait qu'il soit agnostique déclaré limite son influence. Alors, il faudrait aussi, permettre des recherches de type exégétique ou de vraies recherches pour le renouvellement de la pensée religieuse, qu'il y ait un consensus entre les autorités musulmanes. Puisqu'il n'y a pas de magistère authentique et unique, il faudrait que tous ceux qui ont une responsabilité au sommet se mettent d'accord pour ouvrir la porte à ces recherches, mais on en est loin, ça ne marche absolument pas. En tout cas, il y a dans l'islam une pratique qui remonte au Xe siècle, c'est que l'on a fermé les autorités de l'époque qui régnaient sur le monde musulman à partir de Bagdad. C'est une formulation tout à fait adaptée, si vous voulez. Elles ont fermé la porte de l'interprétation innovatrice, ce qu'on appelle l'interprétation innovatrice. C'est au Xe siècle que le statut incréé du Coran a été défini comme un dogme intangible. Mais, alors en même temps, on a fermé la porte de l'interprétation innovatrice. Et depuis, aucune autorité n'a été en mesure de rouvrir la porte de l'interprétation innovatrice. Ça s'appelle en arabe l'Ijtihad. I-J-T-I-H-A-D. Ijtihad, c'est l'interprétation innovatrice. Tant qu'il n'y aura pas cette possibilité, reconnue par le monde musulman tout entier, il est à craindre que rien ne soit possible concernant le renouvellement de la pensée religieuse en islam. Et d'ailleurs, les Tunisiens là, que je connais, il y en a un d'entre eux qui a donné un entretien une fois à une revue française, on l'a interrogé sur ses travaux, il a dit « Je suis parfaitement conscient que je risque d'être accusé d'innovation blâmable pour oser proposer de nouvelles lectures du Coran. » Il faut avoir bien conscience de ça, comme ça ben, on connaît les limites hein, de ces travaux et ma foi... Pour l'instant, on ne peut pas trop espérer. Alors, ces sujets concernent le statut de la femme, les droits de l'homme, la liberté religieuse, le rapport à la violence, la laïcité, etc., des choses dont je vous parlerai demain. Alors, je reviens maintenant au Coran, à sa conception. Je vous ai déjà dit ce matin que seule la sourate 12, qui concerne la vie du prophète Joseph, reprend... l'intégrité par rapport à la Bible. Ailleurs, tout est mélangé. Donc, dans chaque sourate, il y a des thèmes variés où alternent de façon non ordonnée des professions de foi, des invocations, des cautions divines au choix de Mahomet. Dieu dit, c'est bien ce que tu fais. Des récits évoquant les interrogations de Mahomet. Des bribes de sa vie privée et de sa vie publique, le rappel du rôle de certains prophètes, des interpellations polémiques à ceux qui refusent l'islam ou bien qui déforment sa doctrine, et enfin des préceptes législatifs. Mais les prescriptions d'ordre législatif dans le Coran sont très peu nombreuses, d'où l'importance de la sunna, dont je vous ai parlé ce matin comme deuxième source, la tradition prophétique qui sert à compléter ce qui manque au Coran dans le domaine de la loi. La sunna est normative. Du point de vue de la loi, elle a un statut équivalent au Coran, mais pas du point de vue dogmatique. Le Coran, c'est la parole de Dieu. La sunna, c'est ce que Mahomet a fait, n'a pas fait, ce qu'il a enseigné en quelque sorte par son exemple. Et ça, c'est normatif. Ça complète donc le Coran. Alors... Le Coran a été en fait rassemblé, le Coran tel que nous l'avons aujourd'hui, celui-là par exemple. Il a fait l'objet. Oui.
Juste, il considère que la parole de Dieu donnée dans le Coran, il donne une même importance à la sunna.
Non. Bon, puisque vous posez la question, la sunna, donc c'est la tradition prophétique, c'est un immense recueil de paroles, de gestes, même de silence parfois, attribué à Mahomet par une chaîne de transmetteurs qui a pris plusieurs générations et qui, à chaque fois qu'on rapporte un fait, un geste ou une parole de Mahomet ou un silence, on indique aussi les circonstances dans lesquelles ça a eu lieu. Et alors, mais il y a des doutes sur l'authenticité de certaines de ces attitudes de Mahomet. Si bien qu'on a classé ces faits, gestes, paroles, silences, ce que vous voulez, en catégories. Alors, il y a, si vous voulez, chaque parole, chaque geste ou chaque silence de Mahomet dans telle ou telle circonstance est appelé hadith. C'est écrit H-A-D-I-T-H. Les hadiths composent la sunna. La sunna, c'est le recueil de tous ces hadiths, donc les faits de Mahomet. Alors, on a donc découpé la sunna en catégories de hadiths. Il y a les hadiths saints, considérés comme saints. Donc ceux-là, ils viennent directement de Dieu, que Dieu a dicté à Mahomet. Il y a les hadiths sûrs, dont on est certain qu'ils sont vraiment authentiques. Et il y a les hadiths non sûrs, dont l'origine est douteuse. Parce que ça a duré plusieurs générations pour rassembler tout ça. Donc, on a pu penser que certains transmetteurs n'ait pas dit les choses de manière absolument certaine. Le problème, c'est que tout ce qui est dans la Sunna, que ce soit les hadiths saints, les hadiths sûrs et les douteux, eh bien, ils sont tous là et qu'on peut toujours les utiliser pour forger la loi islamique. Comment ? Ah, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, ce sont les docteurs de la loi islamique. Voilà, alors je reviens au Coran maintenant. Ce que nous dit la tradition musulmane, c'est que quand il y a eu les premières conquêtes musulmanes après la mort de Mahomet, il y aurait eu un risque de déperdition et de transformation du Coran. Il y a une formulation particulière. Il y aurait eu des feuillets épars. Des feuillets épars. Si vous voulez, les scribes ont recopié sous la dictée de Mahomet, mais comme ils partaient dans toutes les directions, il y aurait eu après des textes divergents qui auraient circulé. C'est ce qu'on appelle les feuillets épars. Si bien que le troisième calife de l'islam, qui s'appelait Othman, vous en avez parlé ce matin, O-T-H-M-A-N, qui a gouverné entre 644 et 656, inquiet de cette dispersion, a demandé à un cercle de secrétaires de rassembler le Coran pour en faire un corpus unique qui s'imposera à tous. Et c'est ce groupe-là qui a mis en place le Coran d'aujourd'hui, donc qui est composé de 114 sourates et de 6236 versets, avec un ordre étonnant pour nous, puisque c'est l'ordre de longueur décroissante et pas chronologique.